Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité. Et l'actualité sont bien sûr les élections municipales. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Luc Stenmetz, historien, juriste et grand spécialiste de la vie politique calédonienne. Luc Stenmetz, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation et les auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes également, rappelons-le, le consultant du club politique. Et nous allons d'ailleurs vous retrouver ce soir également. Mais ce midi, nous n'allons pas parler politique, nous allons proposer aux auditeurs une page spéciale pour tout savoir sur ces élections municipales parce que c'est un scrutin un peu particulier. Le premier tour se déroule dimanche, le 15 mars. Le second tour aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 22 mars. Vous allez tout nous expliquer, nous dire comment ça fonctionne, comment ça marche, qui on élit, etc. Avec tout d'abord un petit rappel historique. Les communes sont relativement récentes en Nouvelle-Calédonie. Elles datent en fait de 1969.
Les communes telles qu'on les connaît aujourd'hui, 1969, c'est vrai. Elles sont depuis 1969, depuis la troisième loi Biot. On rappelle des lois Biot en Calédonie, elles ont toutes été érigées en collectivité territoriale de la République, c'est leur statut actuel. Mais en fait, il y a eu déjà dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie des périodes où on avait mis en place des embryons de ce qui allait plus tard devenir des communes. Par exemple, ça avait commencé avec la création d'une commission municipale, comme on les appelait à l'époque, à Canala, dès 1871, tandis que Nouméa avait été aussi érigée en commission municipale, mais qui n'a pas tellement duré, et finalement en commune pour la première fois en 1879. Et puis, on avait également vu la création, à partir de 1947, de commissions régionales. Alors, la différence entre les deux, elle s'explique par l'évolution du corps électoral. Tant que la Nouvelle-Calédonie était une colonie française, c'est-à-dire de 1853 jusqu'en 1946, les Mélanésiens étaient sujets français, non pas citoyens. Donc, comme ils ne pouvaient pas avoir de droit de vote, ça veut dire que là où il n'y avait essentiellement que des Mélanésiens, il n'y avait pas de vie politique et démocratique possible. Ça a changé avec, évidemment, l'avènement du territoire d'outre-mer. En 1946, les Mélanésiens ont obtenu le droit de vote. Ils sont devenus sujets citoyens français à part entière. Et à ce moment-là, on a créé dans les régions où il y avait essentiellement des Mélanésiens, des commissions régionales.
Mais qui correspondaient à ce qui est aux communes actuelles.
Ça correspond exactement, le territoire de ces commissions régionales ou de ces commissions municipales correspond toujours à l'espace territorial de nos communes d'aujourd'hui. Et Nouméa est un cas particulier parce qu'elle avait été érigée en commune dès 1879, avec un statut spécial qu'elle a bien sûr conservé jusqu'à ce qu'elle devienne en 1969, comme toutes les autres, une collectivité à part entière, mais elle l'était déjà. Donc pour elle, ça n'a pour ainsi dire pas changé.
Mais les autres, donc, sont vraiment les communes telles qu'on les connaît aujourd'hui ont vraiment été créées en 1969.
Oui, à deux exceptions près.
À deux exceptions près, qui ont été créées beaucoup plus récemment.
Lorsqu'elles ont été créées en 1969, il y avait au total 31 communes, et il y en a 33 aujourd'hui. Eh bien, c'est le résultat de deux détachements d'espace territorial d'une commune. Alors, ça a été le cas d'abord pour Poum, qui s'est détaché de la commune de Koumac, et puis, en dernier lieu, en 1995, de Kouawa, qui s'est détaché de la commune de Canala pour pouvoir devenir une commune à part entière. Alors, on est à 33 communes aujourd'hui.
Voilà pour ce point historique. Alors, il y a une précision que vous aimez bien apporter également, c'est que lors de ces élections municipales, on n'élit pas un maire, on élit un conseil municipal. C'est différent quand même.
Le conseil municipal, c'est l'organe délibératif de la commune, tandis que le maire et ses adjoints, il ne faut pas les oublier, c'est l'organe exécutif de la commune. Et dimanche prochain, dans deux jours, pour un premier tour, sauf pour quatre communes, eh bien, on va élire le conseil municipal seulement. Et ensuite, ce conseil municipal, il aura à se réunir une fois qu'il aura été constitué, pour désigner le maire et ses adjoints, c'est-à-dire la municipalité, qui au sens strict est vraiment ce que l'on appelle l'organe exécutif de la commune. On emploie moins le terme municipalité aujourd'hui, pourtant, officiellement, la municipalité, c'est l'exécutif maire et adjoint.
Et les électeurs sont appelés à une liste, à voter pour une liste, puisque effectivement, c'est une liste qui composera, enfin plusieurs listes dans certains cas, qui composeront le conseil municipal. Est-ce que quand on dit on vote pour le maire, en fait, parce que les gens sont attachés à la tête de liste en pensant que ce sera le futur
maire. En général, en effet, celui qui a vocation, entre guillemets, je mets ce mot entre guillemets parce qu'il a beaucoup de sens pour certains, et il a vocation à être maire parce qu'il est en tête de liste. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais enfin, on a vu quelques rares situations où parfois, en particulier à la suite de deuxième tour et de recomposition de liste, des évolutions qui ont pu faire qu'une tête de liste ne devienne pas maire, même s'il avait éventuellement une majorité au départ. Mais enfin, c'est tout de même exceptionnel.
Alors, les conseils municipaux, justement, combien de membres dans ces conseils? Ça dépend, en fait, de la taille, enfin, de la population de la commune.
Oui, en effet, c'est le nombre d'habitants de la commune qui va ensuite déterminer le nombre de conseillers municipaux. Ça veut dire que ce nombre est variable selon le nombre d'habitants de la commune. Alors, on va pas les citer, les 33, mais on va prendre quelques exemples pour donner un petit peu une idée de la marge que ça peut représenter. Nouméa a 86 000 habitants et a droit à 53 conseillers municipaux. Si on prend Bélep, qui n'a que 686 habitants, c'est 15 conseillers municipaux. Et si on prend une commune intermédiaire, par exemple, comme Koumac, qui a 4300 habitants environ, elle a droit à 27 conseillers municipaux. Alors, si les gens sont intéressés, et ils pourront déjà vérifier cela lorsqu'il y aura les résultats qui seront publiés, et puis les bulletins de vote aussi, ils pourront voir, en fonction du nombre de noms qui sont inscrits sur leur bulletin, eh bien, ils pourront voir combien de conseils municipaux ils ont à élire. Avec cette petite remarque qu'il y a, en plus du nombre de conseillers municipaux, des suppléants qui, en principe, figurent également sur les listes. En général, c'est plus d'eux. C'est pour ça que sur la liste de Nouméa, par exemple, il y a 55 noms, 53 qui sont en principe les conseillers éligibles, et dès éventuellement le premier tour, si toutefois il y avait un tel score qu'une liste écrase toutes les autres, tandis que éventuellement, il y en aura deux d'autres qui apparaîtraient uniquement en cas de suppléance.
Voilà, c'est pour ça que les listes sont composées avec le nombre de conseillers municipaux plus deux, mais encore une fois, ces suppléances, c'est facultatif.
Hein. Oui, c'est facultatif, parce que si des gens ont parfois du mal à constituer une liste, 53 noms, c'est beaucoup à trouver sur Nouméa.
Alors, 55, c'est pire.
Alors, à 55, c'est encore pire, et ils auraient pu s'arrêter à 50-51, et ça n'aurait pas empêché la liste d'être valide. Ça aurait éventuellement posé des problèmes si cette liste, par hasard, arrivait à avoir tellement d'élus qu'à un moment donné, il n'y ait plus de suppléants pour pouvoir suppléer justement un conseiller municipal décédé ou démissionnaire.
Alors, autre précision importante en Nouvelle-Calédonie, qui peut voter aux élections municipales? Ça, faut le répéter sans doute parce qu'il y a...
Ah ben, il faut le répéter parce qu'il
y a tellement de corps électoraux
qu'on peut s'y perdre. Voilà, il y a tellement de corps électoraux en Nouvelle-Calédonie que là, on a affaire à un corps électoral général. Ça veut dire que là, le suffrage universel ne subit aucune restriction. Parce que vous savez qu'il existe des restrictions pour ce qu'on appelle le corps électoral provincial, hein, la fameuse LEG, la liste électorale provinciale. Et puis, il y en a une autre liste spéciale qui est la liste spéciale consultation. Et à chaque fois, il y a des restrictions qui sont liées au temps de présence en Nouvelle-Calédonie qui sont telles qu'on peut avoir une diminution importante du corps électoral. Donc, ça n'est pas le cas. Les élections communales, les élections municipales sont des élections équivalentes à toutes les élections nationales. D'ailleurs, on ne va pas seulement voter en Nouvelle-Calédonie le week-end prochain, mais dans tout l'ensemble français, métropole et outre-mer. Et cette fois-ci, ce sont tous les citoyens français qui sont inscrits sur les listes électorales sans aucune restriction, auxquelles on rajoute, dans le cas particulier des élections municipales, les citoyens de l'Union européenne qui sont domiciliés dans les communes de la Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont pas français, ils sont citoyens de l'Union européenne. La réciprocité est vraie d'ailleurs pour des Français installés dans des villes de l'Union européenne, mais sous condition qu'ils se soient tout de même fait connaître et inscrire et recenser sur une liste européenne. Donc ça élargit un petit peu le corps électoral national habituel.
Alors, un corps électoral qu'on scrute toujours de très près en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le corps électoral de la liste donc générale, même si on y ajoute les ressortissants de l'Union européenne, est-ce que ce corps électoral a beaucoup évolué depuis les dernières municipales il y a 6 ans?
Alors, d'une manière générale, on constate depuis 2014 une légère tendance à la baisse du corps électoral général. Et 2014, ce n'est pas une année neutre. C'est l'année où, pour la première fois, il pouvait y avoir un référendum d'autodétermination qui était prévu pour la sortie de l'accord de Nouméa. On ne va pas rappeler pourquoi ça n'a pas eu lieu avant, et il a fallu attendre 2018 pour que la première consultation ait lieu. Mais ça veut dire qu'à partir de 2014, il s'est installé en Nouvelle-Calédonie un certain climat d'incertitude sur l'avenir, ce qui fait que, progressivement, la Calédonie a perdu des habitants. Le déclin démographique en nombre d'habitants au total, on l'a constaté à partir de 2014. Et il s'est évidemment accentué après les troubles. La Covid, déjà, a été une période qui a fait partir pas mal de personnes. Et puis ensuite, avec l'insurrection de 2024, alors là, ça a augmenté encore les départs. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas précis de Nouméa, il y a à peu près, par rapport aux législatives, moi j'ai pris les législatives de 2024 parce que c'est la dernière fois qu'on a eu affaire à la liste électorale générale, eh bien il y a eu 1500 électeurs en moins. Donc cette tendance à la baisse, elle existe.
Alors, le mode de scrutin, ça aussi, c'est très particulier par rapport aux autres scrutins auxquels les Calédoniens sont appelés très régulièrement. Quel est le mode de scrutin pour ces municipales? Et ce n'est pas le même en fonction de la taille des communes, là non plus.
Alors, c'est la taille des communes qui fait la différence. On va commencer par les communes de moins de 1000 habitants. Il y en a 4 en Nouvelle-Calédonie. Elles ont conservé le mode de scrutin qui était celui des communes en Nouvelle-Calédonie avant une réforme qui est intervenue il y a déjà plusieurs années. Dans ces petites communes, on ne va pas les marquer par la taille petite, mais c'est vraiment les moins peuplées.
C'est Bellec, Sarino, Saramea, Moineau.
Eh bien, elles élisent leur conseil municipal à un scrutin qu'on appelle le scrutin à la représentation proportionnelle. Ça veut dire que plusieurs listes se présentent et elles obtiennent ensuite un nombre de sièges au conseil municipal qui est proportionnel au nombre de voix obtenues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le calcul de la plus forte moyenne parce que c'est vraiment un peu fastidieux. On pourrait le faire, mais enfin, on divise en gros le nombre de voix par le nombre de candidats à élire et ensuite, chaque liste a un nombre d'élus en proportion du nombre de voix qu'il a obtenu. C'est ce qu'on appelle la représentation proportionnelle. Mais elle ne s'applique que dans les 4 petites communes.
Avec un seul tour de scrutin, donc.
Et il y a forcément un seul tour de scrutin. Donc il n'y aura pas de deuxième tour pour ces 4 communes le 22 mars. Par contre, pour les communes de plus de 1000 habitants, alors là, c'était déjà le cas dans l'élection précédente, je précise. Eh bien, on applique un scrutin qui est le scrutin de liste mixte, paritaire, donc, et en plus à partage de majorité et de proportionnalité. Je m'explique. L'idée qui a prévalu pour créer ce mode de scrutin, c'est que dans un scrutin purement majoritaire, la liste qui a une forte majorité emporte presque tous les sièges et les minorités n'ont pour ainsi dire pas droit à la parole. Mais le défaut de la proportionnelle, eh bien, c'est que parfois ça entraîne un tel émiettement et une telle division du conseil municipal ou dans une autre assemblée du congrès, par exemple, on voit ça ici, qu'on a du mal à constituer une majorité après. Donc l'idée, c'est, au travers de ce scrutin mixte, c'est de faire en sorte qu'on ait une majorité qui s'est exprimée, qui détient une forte majorité au sein de l'Assemblée, ici un conseil municipal, mais sans empêcher les minorités d'avoir tout de même droit au partage des sièges et donc d'avoir la possibilité d'exprimer leur voix. Alors voilà qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire qu'au premier tour, une liste qui a obtenu au moins la majorité absolue des suffrages exprimés va avoir droit d'emblée, dès le premier tour, à la moitié plus 1 du nombre de conseillers municipaux, c'est-à-dire la majorité absolue des conseillers municipaux. Et restera une autre moitié de sièges à partager. Alors, à ce moment-là, on fait un partage, cette fois-ci, à la proportionnelle entre toutes les listes, y compris celle qui a été servie dès le premier tour par le fait d'avoir déjà eu la majorité absolue des élus. Ça, c'est dans l'hypothèse où il ne se passe qu'un tour. Et pour que ce soit possible, eh bien, il faut qu'il y ait tout de même plus d'une liste qui ait au moins 10% des suffrages exprimés, et puis qu'elle ait surtout dépassé 5% des inscrits. Parce que pour avoir des élus, il faut avoir au moins dans les deux cas, premier ou deuxième tour, 5% des inscrits cette fois-ci. Hein, et non pas des suffrages exprimés, des inscrits. Alors, ça veut dire que les listes qui éventuellement n'auraient pas été servies au premier tour, elles peuvent se rattraper au deuxième tour, si toutefois elles n'ont pas eu d'élus et que aucune liste n'a dépassé la majorité absolue au premier tour.
Voilà, alors le deuxième tour, quelles sont les listes qui peuvent se maintenir? Quelles sont les conditions pour pouvoir... Et est-ce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un panachage des alliances entre les différentes
alors,
listes?
Alors, pour accéder au deuxième tour, déjà, la règle, c'est qu'il faut avoir au moins 10% des suffrages exprimés. Hein, voilà.
Là, on parle d'exprimés, hein, pas d'inscrits, d'exprimés.
On parle des suffrages exprimés, bien sûr. Et pour pouvoir accéder au deuxième tour, sont admises toutes les listes qui ont au moins 10%, mais en même temps, ça exclut les listes qui ont moins de 5%. Pourquoi elles sont complètement exclues, celles-là? Parce que, comme vous l'avez dit, Elisabeth, il y a possibilité, en effet, de faire des fusions et donc des panachages de listes au deuxième tour. Ça veut dire qu'éventuellement, des listes qui n'auraient pas obtenu, parce qu'elles n'ont pas eu la majorité absolue au premier tour, qui n'ont pas obtenu d'élus au premier tour, peuvent éventuellement fusionner avec des plus petites listes. Mais à condition que ces petites listes, elles-mêmes, aient eu au moins 5% des voix. Parce que d'une manière générale, quand on a moins de 5%, on est exclu du partage. Alors ça peut en effet donner lieu à des fusions. Le problème, c'est qu'il faudra en général, dans ce genre de situation, faire très vite. Parce qu'entre le premier tour et le dépôt des listes de candidature pour le deuxième tour, il n'y a que 2 jours pleins. Ça veut dire que on sera le 15 mars dimanche, le mardi 17 mars au soir, les listes pour le second tour devront être déposées. Alors vous imaginez les tractations que ça va entraîner en 2 jours pour essayer de se placer sur des listes à condition d'être accepté par une plus grande, ça peut exister. Ça peut exister, donc des fusions et du panachage est donc possible. Mais panachage au sens de panachage des listes. Hein. Parce que si toutefois on panache le bulletin de vote en rayon des noms, ça entraîne la nullité du bulletin et c'est pas la même chose. Je tiens à le préciser.
Voilà, à aucun des tours on a le droit de rayer un bureau de vote.
On a le droit. On a le droit, mais à ce moment-là, le bulletin devient nul.
Petite précision, donc 2 modes de scrutin pour l'instant, mais ça va pas être... Enfin, les communes de moins de 1000 habitants vont... d'ici 2032, avoir le même mode de scrutin que toutes les communes.
Oui, actuellement, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie font exception à cette règle qui s'applique encore qui s'applique maintenant pour les communes de France et d'ailleurs, parce que en Nouvelle-Calédonie, normalement, cette année, on n'applique pas encore le scrutin de liste mixte, majoritaire et proportionnel, dans les petites communes de moins de 1000 habitants. Mais il y a une ordonnance qui est sortie le 19 novembre 2025 et qui reporte à 2032 l'application de cette règle de la liste mixte majoritaire et du scrutin qui va avec, donc pour les petites communes. Donc en 2032, ce sont les 33 communes de Nouvelle-Calédonie qui seront soumises ou bien qui appliqueront le mode de scrutin qui aujourd'hui s'applique seulement aux communes de plus de 1000 habitants.
Ça nous amène à la durée du mandat. En principe, c'est un mandat de 6 ans, mais dans le passé et peut-être dans le futur, ce mandat peut être ou raccourci ou rallongé. Hein.
Oui, mais c'est déjà arrivé. Hein. En principe, les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans, et en principe aussi le maire, sauf s'il perd sa place en cours de mandat, ça c'est possible, mais en principe le maire lui-même est élu avec son équipe municipale pour 6 années. Mais ici en Nouvelle-Calédonie, on a eu pas plus tard que à l'occasion des dernières municipales, un report non pas de la totalité de l'élection, mais du deuxième tour. À l'époque, c'était la période dite du confinement. La Calédonie n'était pas encore touchée sur place par la crise Covid, mais comme cette mesure de report à cause du confinement en métropole et ailleurs avait été décidée entre le mois de mars et de juin, voyez-vous, c'est important tout de même, 4 points d'écart, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, on a aussi eu un deuxième tour qui a eu lieu en juin 2020, alors que le premier tour avait eu lieu en mars.
Et ça, c'est assez inédit, hein, c'est exceptionnel, ce genre de situation.
C'est assez exceptionnel. Mais on a vu, en effet, d'autres situations. Et c'est vrai, la plupart du temps, lorsque les municipales tombent la même année que des élections nationales telles les présidentielles et les législatives.
Ce qui pourrait précisément être le cas pour la fin de ce mandat, qui doit se terminer en 2032, c'est-à-dire en même temps que devraient avoir lieu les élections présidentielles.
Parce qu'en 2007, par exemple, on avait dû reporter déjà à 2008 des élections municipales parce qu'il y avait en 2007 les présidentielles et les législatives. Et on risque de se retrouver dans la même situation en 2032 parce qu'on devrait avoir les élections municipales au mois de mai, le premier tour des présidentielles au mois d'avril, le deuxième tour au mois de mai et derrière, les législatives qui suivraient, parce que le président sera certainement amené à dissoudre l'Assemblée qui a été élue l'année dernière, hein, même déjà en 2024, parce qu'on a changé d'année depuis. Voilà. Alors, voilà. Il est fort possible qu'on se retrouve avec un mandat de ces conseillers municipaux qui seront élus cette année, prolongé d'un an qui pourrait durer par conséquent 7 ans. Ça veut dire que retour aux élections, retour aux urnes pour les municipales, seulement en 2033, si toutefois cette disposition était appliquée. On n'en a pas encore la confirmation, mais ça a déjà été étudié par le ministère de l'Intérieur l'année prochaine. Voilà.
Alors, beaucoup d'éléments déjà. Un petit retour, on parlait des premiers, deuxième tours. En 2020, 11 communes sur 33 ont eu leur conseil municipal élu dès le premier tour de scrutin. C'était beaucoup, d'ailleurs, ça avait un peu surpris, non
c'est... Oui, mais est-ce qu'on peut retrouver 11 sur 33, et il y en avait tout de même.
Il y avait 4 les 4 dont c'était naturel.
Qui n'ont pas de deuxième tour. Voilà. Donc, les 4 petites communes, on l'a dit déjà, elles n'ont qu'un seul tour.
Mais ça faisait quand même beaucoup de communes qui passaient dès le premier tour, non c'est classique, ça peut être retrouvé cette fois-ci.
Beaucoup, ça fait dire à quelques 2 ou 3. C'est ça. C'est pas tellement énorme non plus. Hein. Mais moi, ce que je constate, c'est que plus le nombre de listes est en compétition, plus ça augmente la difficulté à atteindre pour une liste la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour. Voyez-vous. Et dans ces conditions-là, ça peut poser des problèmes par la suite. Mais le nombre de listes, il est en même temps à deux revers. D'un côté, il y a l'aspect positif, c'est la vitalité de la démocratie. Après tout, si beaucoup de gens veulent gérer les affaires de la cité, eh bien, tant mieux, c'est plutôt une bonne chose, plutôt qu'une désaffection. Mais inversement, ça peut entraîner aussi le risque, et c'est le défaut, et c'est que ça entraîne une telle dispersion des voix que ça peut amener éventuellement à affaiblir ceux qui auront été élus. Donc, on va attendre, mais pour l'instant, je constate que la multiplication des listes, mais vraiment d'une manière substantielle, est le fait plutôt des communes indépendantistes. Et je crois que l'exemple de Bélep est le meilleur à donner. Voilà une commune où il n'y a tout de même pas beaucoup d'habitants. Aux dernières élections, celles de 2020, il n'y avait que 2 listes en compétition. Cette année, il y en a 5.
C'est vrai que d'habitude, enfin, tous les scrutins, en général, il y en a 2 à Bélep.
En général, les petites communes n'ont pas trop de listes.
Autre élément important, la participation. Alors on se souvient qu'en 2020, parce que c'est le dernier scrutin auquel on peut faire référence, la participation avait été relativement faible. Alors il y avait les éléments de contexte que vous rappeliez, le Covid, le fait que l'élection soit faite en 2 temps. Mais quelle est la conséquence de la participation sur un scrutin comme celui-là ?
Alors, sur ce scrutin type municipal, l'influence de la participation, d'abord, ne serait-ce que sa mesure. Elle permet de voir si les gens, d'une manière générale, continuent à faire confiance à ceux qui les gèrent. C'est un premier élément de réflexion qu'on peut avoir. Et ensuite, le deuxième élément de réflexion, mais qui est lié au premier, c'est que si la participation est faible, eh bien, ça peut peut-être dire que des gens ont, d'une manière définitive, ou au moins pour une longue durée, décidé de vraiment jeté en quelque sorte le corps politique au rancard.
Mais après, dans les calculs que nous faisiez tout à l'heure de la répartition des sièges, est-ce que Nice a intérêt à ce qu'il y ait une participation très forte ou non? Ça n'a pas d'incidence.
Ça n'a pas d'effet parce que la majorité, qu'elle soit sur 80% des inscrits ou qu'elle ne soit que de 30% des inscrits, de toute manière, ça sera une majorité absolue. Hein? Et d'autre part, les conditions d'accès au deuxième tour, etc., elles seront calculées, elles, sur la majorité des suffrages exprimés. Donc, quel que soit le nombre de participants, les suffrages exprimés sont ceux qui vont déterminer après les élus. Alors, le problème éventuellement, eh bien, c'est qu'on se retrouverait ensuite avec des élus qui seraient majoritaires parce qu'ils ont obtenu le plus de voix, mais qui ne représenteraient qu'une minorité de la population, qu'une forte minorité, si vraiment il y avait une trop forte abstention. C'est pour ça que le devoir des citoyens, c'est d'aller voter. Ils votent pour qu'ils veulent, c'est leur liberté, mais c'est tout de même un des droits de l'homme pour lesquels on s'est battu dans le passé. Pas nous, parce qu'on est déjà français et citoyens depuis longtemps, mais je pense en particulier du côté du monde kanak. Mais d'une manière générale, le droit de vote est un droit et c'est un devoir. Il ne faut pas oublier les devoirs associés au droit.
Alors, organisation pratique, là, cette fois-ci. Il y a 297 bureaux de vote au total en Nouvelle-Calédonie sur l'ensemble des 3 provinces et des 33 communes. Mais dans certaines communes de l'agglomération, ils ont été regroupés. C'est le cas notamment à Nouméa, où les 56 bureaux sont regroupés dans 8 centres de vote. On sait que ça provoque un certain nombre de réactions. Mais pourquoi? Quel est l'avantage de regrouper les bureaux de vote? Et est-ce qu'il y a des inconvénients aussi, comme un certain nombre de gens le soulèvent?
Il faut tout de même d'abord se rappeler la cause de ces regroupements, qui date tout de même des événements de 2024. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 2024, il y a eu l'insurrection décidée par l'UCCCAT et qui a d'ailleurs entraîné une folie destructrice et incendiaire. Ça veut dire qu'au moment de l'organisation des élections législatives qui ont suivi la dissolution en juin-juillet 2024, eh bien, il a fallu d'une part organiser la sécurisation par les forces de sécurité, les forces, j'aime pas les appeler les forces de l'ordre, les forces intérieures de sécurité. Il a fallu organiser donc la sécurisation des bureaux de vote. Et puis, ça a posé déjà le problème de regrouper, enfin la nécessité de regrouper des forces de l'ordre sur un périmètre le plus réduit possible.
Oui, on va vous dire que c'était une situation exceptionnelle et que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et la deuxième raison, eh bien, c'est que beaucoup de locaux, en particulier des écoles qui servaient au bureau de vote, eh bien, étaient eux-mêmes incendiés ou en mauvais état, et donc dans l'impossibilité d'accueillir des élections. Par conséquent, ça, je trouve que ce sont des raisons qui, en partie, persistent aujourd'hui. Parce que on est certes dans une situation qui est plus calme, heureusement, mais il y a quand même encore des pelotons de gendarmerie, des escadrons de gendarmerie mobile en complément de la dose habituelle qu'on a ici, qui sont en Calédonie. Ce n'est pas pour rien, parce que ça peut éventuellement bouger d'un jour ou l'autre. C'est la raison pour laquelle, moi, je considère que le maintien de ce système de regroupement est quelque chose qui est nécessaire, utile, et qui ne fait pas obstacle à l'exercice de la démocratie. Pourquoi ? Parce que quand on se rappelle des élections législatives qui se sont déroulées avec ce regroupement, en particulier sur Nouméa, ça n'a pas empêché le droit de vote de s'exprimer, et la participation a plutôt été très satisfaisante.
Et il y a peut-être aussi un côté pratique, c'est peut-être plus simple de relever, au moment du dépouillement, de relever tous les bureaux ensemble dans 8 centres plutôt que dans 56 bureaux.
Donc, éventuellement, mais n'oublions pas que ça ne veut pas dire...
Ce qui fait que les résultats tombent plus vite, je veux dire.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 8 bureaux de vote.
Non, j'ai bien dit 8 centres.
Parce que les gens essaient de le faire comprendre. Il n'y aura pas 8 bureaux de vote, il y aura 8 regroupements, mais à l'intérieur des regroupements, il pourra y avoir 5 ou 6 bureaux de vote.
Voire plus. Il y a quelques centres Nouméa où il y a une dizaine de bureaux de vote.
Voilà. Et je trouve en plus, moi, un petit peu drôle que ceux qui protestent contre ce regroupement cette année ne l'avaient pas fait à l'époque en 2024, d'autre part, et ils oublient en même temps quelle en est la cause.
On a dit qu'on ne parlait pas politique ce midi, Luc Stenmetz, on parle organisation pratique. Justement, ben, on va conclure après toutes ces informations sur le calendrier maintenant. Les Calédoniens votent dimanche pour le premier tour donc de ces élections municipales. Et ensuite, les prochaines étapes, c'est quoi ?
Ah ben, on l'a déjà dit, hein, presque au travers de ce que je viens de dire là. C'est qu'il va y avoir comme prochaine étape, d'abord, pour les quatre communes qui vont élire leur conseil municipal dès dimanche et qui n'auront pas de deuxième tour. Ils vont devoir élire leur maire et leurs adjoints, c'est-à-dire constituer leur municipalité, leur exécutif.
Et ça se fait, il y a une date précise ?
Alors, il y a une date précise. C'est que ça se fait au plus tôt le premier vendredi qui suit l'élection du conseil municipal et au plus tard le dimanche qui suit ce vendredi. Ça veut dire que dans le cas de Farineau, Moindou, Bélep et puis
Moindou,
eh bien ces quatre communes, une fois qu'elles auront élu leur conseil municipal dimanche, vont devoir se réunir en conseil municipal dès vendredi. En général, ça se fait le vendredi, mais des fois le samedi, rarement le dimanche, pour élire leur maire et leur conseil municipal. Qui est chargé de convoquer ce conseil municipal nouvellement élu ? C'est le maire sortant, mais il ne va pas ensuite présider le conseil municipal. C'est le doyen d'âge qui va le présider. Mais il prendra, lui, ensuite la place de maire s'il est élu.
Ouais, le maire sortant,
quand il aurait été élu.
Maire sortant s'il est élu.
Et si, enfin le maire élu prendra la place du doyen d'âge. Et pour les autres communes, eh bien, il y aura éventuellement, attention, les maires qui auront également, les communes, pardon, qui auront élu leur conseil municipal dès dimanche, parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour, seront soumises, elles aussi, à l'élection de leur municipalité dès le vendredi qui suit.
Et les autres, donc, tour le 22, et selon le même principe,
selon le même principe,
ils élisent leur maire entre le vendredi et le dimanche.
Et le dimanche, ils devront élire leur maire, et voilà, dans les mêmes conditions.
Voilà, donc une actualité qui va encore nous tenir quelques
au moins jusqu'à la fin du mois, sans compter que par la suite, on pourrait avoir encore des
Il y a eu quelques recours l'an dernier, après les élections de 2020.
Oui, mais ça n'a pas été loin.
Hein. Aucun qui n'avait abouti.
Il y en avait même eu quelques-uns déjà avant, et on a vu qu'ils n'ont pour l'instant pas réussi, hein, pas eu de succès. Donc, on va voir, mais de toute manière, la justice administrative est là pour assurer le contrôle de la légalité de toutes ces opérations électorales, y compris pour les élections municipales. Donc, on fait confiance à l'organisation des possibilités pour chacun d'éventuellement faire un recours et de la justice à se prononcer par la suite. C'est ça, un état de droit.
Eh bien, merci Luc Stenmetz pour toutes ces précisions, toutes ces informations.